faut à ce pays, c'est plus qu'un bâtiment, c'est de l'espoir.
El pueblo unido jamás será vencido.
¡Vencemos a!
El pueblo unido jamás será vencido.
Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter.
Les peuples ne devraient pas avoir peur de leur gouvernement. Les gouvernements devraient avoir peur du peuple.
Et si on faisait un pas de côté? Si on faisait un pas de côté, on verrait ce qu'on voit jamais. On verrait ce qu'on voit jamais.
Wakadi, on a quelque chose à dire, c'est parti. Au début, aujourd'hui, on vous propose une émission spéciale qui va nous faire débuter l'année par un sujet qui paraît sous tension. En effet, on a répondu à l'invitation des parents d'élèves FCPE du groupe scolaire de la Martelle à Montpellier. On s'est installé dans l'école le temps d'une émission. Sur ce plateau, on aura donc le bonheur d'accueillir plusieurs invités qui ont quelque chose à dire. Alors, je vais démarrer les présentations. Donc, on a avec nous Karine Garcia et Corinne Garnier, si je ne me suis pas trompé, c'est ça, pour le RASED. Vous allez nous expliquer ce que c'est le RASED et qu'est-ce qui se cache derrière ce mot barbare, quand même. On a Emmanuelle Bonin qui est enseignante à l'école, comment elle s'appelle cette école, Spinoza, c'est ça, à l'école Spinoza du groupe scolaire La Martelle. Et on a Olivier Lapeyre qui interviendra pour les parents d'élèves du conseil local FCPE. Bienvenue à vous sur le plateau et merci aussi de nous accueillir dans votre école. On va essayer d'y voir un peu plus clair dans ce débat qui pourrait facilement passer pour un débat de spécialistes. On va parler d'éducation, d'élèves en difficulté, de suppression de postes, d'engagement dans le travail, certainement, en tout cas on imagine, de colère aussi, puisqu'on a parlé de... Il y a un certain temps de nuit des écoles, enfin de ce genre de choses. Donc, on va essayer de parler de tout ça. On a sorti, nous, les grands moyens à l'association Wakadi pour animer cette émission, puisqu'on sera quatre. Il y a Jean-Jacques qui va essayer d'assurer la technique et de régler les problèmes qui se posent au fur et à mesure. Boris qui va se prendre pour un enseignant. Et enfin, Séverine et moi-même, Guillaume, pour essayer d'assurer une présence à peu près sérieuse à nos invités, quand même. Ça va, vous êtes bien installés? Bon, ben on peut y aller, alors.
Si tu te tais quand on te demande rien, qu'est-ce que tu diras quand on demandera de te taire?
Si on a quelque chose à dire, voilà.
Alors Boris, c'est vrai qu'en 2009, tu te prends pour un enseignant, c'est ça?
Bah ouais, parce que...
Et un enseignant militant.
Bah ouais, c'est l'époque. Parce que sous prétexte que je sois enseignant, on m'a chargé d'introduire, d'éditoiser plus précisément notre émission en soutien donc aux écoles en lutte. En gros, j'ai eu un coup de téléphone, Boris pour jeudi, rédaction à la maison sur le sujet suivant. Chez Wakadi, on n'a pas le droit au sujet libre, hein, c'est pas l'école du Père Célestin. L'école publique, 2 points, expliquer sous la forme d'une lettre ouverte à une ou deux de vos institutrices ce qui a fait naître chez vous votre attachement à l'école au point que vous soyez devenu enseignant. Bon, d'accord, ça va être dur, mais bon, au bac, j'avais fait un hors-sujet avec un exercice du style similaire. Ce soir, j'ai décidé que j'allais délibérément faire un hors-sujet, comme ça, on est peinard. Alors, en réfléchissant à la question des vocations et de ce qui les fait naître, j'ai été surpris d'un des facteurs souvent sous-estimés, mais qui pourtant, en tout cas pour ma pomme, a joué un rôle majeur. Certes, il y a l'entourage, il y a le tissu social, comme dit justement le père Bourdieu, mais il y a aussi et peut-être surtout la télé. Par exemple, combien d'ingénieurs ont ressenti l'appel de la technique, de l'engrenage et des clés à en perdre haleine uniquement en écoutant ça? La télé nous crée des besoins et des vocations. Modèle nos subconscients. Regardez toutes celles et tous ceux chez qui les programmes télé ont une influence politique majeure, une influence idéologique, et ce, dès la petite enfance. Comme celles et ceux, par exemple, qui voient dans le monde capitaliste un monde avec des gagnants-gagnants, qui pensent que le patronat est un partenaire social. Comment expliquer cela, hormis par une overdose de ça? Parce que franchement, voir dans Parizeau une partenaire même sociale, m'est avis qu'il n'y a pas que le complexe d'Oedipe qui a été loupé. Enfin bon, la télé influence nos envies et du même coup nos vies. Regardez ces milliers de prépubères bourrés d'hormones qui, pour marquer fièrement à leur entourage leur virilité balbutiante, ont porté des chemises à fleurs et hissé leurs premiers poils, naissant en guise de moustache à cause de lui. Bref, la télé aiguille nos vocations, influence nos vies, et gare à ces temps où nos cerveaux sont libres de droit. Et moi, grand couillon, pas mieux que les autres, j'ai pas échappé à mon époque. Ma vocation d'enseignant est également venue de la petite lucarne. Dans les années 80, en regardant ce feuilleton, La Dictée, je sais pas si vous vous souvenez. Ouais, un jour, moi aussi, je serai maîtresse de l'école, tralala. Et effectivement, c'est ce qui arriva. Alors bien sûr, si on y regarde à la va-vite, dans ce feuilleton, on va vite dire que tout ça, c'est du Jean-Pierre Pernaut et compagnie. Le culte du fameux « c'était mieux avant », vive l'époque de la trique et du beau des nanes. Mais que nenni ! D'abord, est-ce qu'avant c'était mieux ? Concernant le niveau scolaire, effectivement, depuis cette époque, on peut dire qu'il a diminué. Bah oui, le niveau scolaire a diminué, tout le monde le sait. En tout cas, concernant celui de nos ministres de l'Éducation nationale, c'est certain.
Sachant que 4 stylos valent 2,42 €, combien valent 14 stylos ?
Oh, je ne sais pas le faire du tout.
Ça. La règle de 3. Hein ?
Merde, je ne pensais pas que c'était à ce point-là.
Ouais, ça a beau être passé par les écoles normales et avoir l'agrégation, c'est pas brillant tout ça. Mais blague à part, est-ce que c'était mieux avant ? Moi, je trouve pas. Avant, l'école, même républicaine, c'était aussi tarte. D'autres tartes, c'est, à chaque époque, c'est parfum, mais tarte quand même. Et pas qu'un peu. Regardez avant la der des der.
Enfant, regarde sur ces cartes ce point noir qu'il faut effacer. De tes petits doigts, tu l'écartes. En rouge, il vaut mieux le tracer. Plus tard, quoi que le sort te fasse, promets-moi bien d'aller là-bas, chercher les enfants de l'Alsace qui nous tendent leurs petits bras. Puisse, en notre chère France, les rameaux verts de l'espérance fleurir par toi, mon cher enfant. Grandis, grandis, la France attend.
Ouais, endoctriner les piou-piou dès le berceau pour en faire de la chair à canon pour les tranchées de Verdun et d'ailleurs, on peut pas dire que ça a valu l'école républicaine le grand prix de l'émancipation. Sortir des grottes pour arriver à ça, vraiment, l'intérêt est assez discutable. Enfin bon, à l'heure actuelle, la besogne de l'endoctrinement a été refourguée aux télés, pas con les capitaleux, plus efficace, plus de masse le procédé. Mais maintenant, pour le marché, on fabrique non plus de la chair à canon, quoique, mais de la chair à spéculation, à publicité, comme dirait l'autre. Mais revenons à nos moutons, comme dirait le grand Topaz. Le feuilleton, pouf pouf. En fait, ce qui m'a fait rêver dans ce feuilleton, et qui me fait rêver un peu aujourd'hui, c'est l'image, en tout cas que j'en garde, c'est l'école laïque, gratuite, publique, comme outil d'émancipation. L'école des freinés, l'enseignement vu par-dessus l'épaule des Vallons, des Langevins. Bref, une école qui va de la maternelle à l'université. L'école, depuis la dictée, c'est mon kiff, ma cam à moi, dirais-je même, si j'étais simplette et milliardaire. Bien sûr, elle reste grandement à améliorer, mais elle est quand même chouette, notre école, de la maternelle à l'université. C'est pourquoi tous et tous ensemble, on a eu raison de se battre pour la gagner, et je crois qu'on a bien raison de se battre pour la garder.
O-A-Q-A-D, Wakadi, un pas de côté sur l'actualité sociale.
Wakadi, ça veut dire on a quelque chose à dire. Mais justement, nous, on a quelque chose à dire.
O-A-Q-A-D, Wakadi, un pas de côté sur l'actualité sociale.
Un pas de côté sur l'actualité sociale.
Et bien décidément, Boris, t'es en forme en 2009. Je sens qu'on va passer. Ça me rassure sur l'année qu'on va passer quand même.
Ah ouais.
On vous rappelle donc qu'on est installé à l'école Spinoza dans le groupe scolaire La Martelle, avec nous des parents d'élèves dans la salle, mais aussi sur le plateau, des enseignants dans la salle, mais aussi sur le plateau, et des enseignants spécialisés et des psychologues aussi, je crois, du RAZ. On va parler d'école, on va parler de difficultés scolaires.
Et oui, notamment de difficultés scolaires. Boris nous l'a bien montré tout à l'heure. On peut en même temps survivre avec des difficultés scolaires, mais il semble depuis quelque temps que l'école va mal. Entre manifestations, occupations d'écoles, nuit des écoles, on a eu le sentiment à Wakadi qu'il y avait un malaise et on a invité les personnes les plus intéressées pour essayer de nous en parler. Donc nous, on part du constat que depuis quelques mois, l'école va mal et que surtout que les enseignants font valoir le fait qu'ils ne se retrouvent pas dans les réformes et dans la nouvelle vision de l'école qu'on leur donne. Donc on aurait aimé vous faire un peu intervenir là-dessus et vous donner déjà votre premier sentiment par rapport à cette question de l'école aujourd'hui.
Est-ce que l'école va mal ?
On peut dire qu'elle a commencé à aller mal depuis quelques temps, en tout cas depuis la rentrée. On a vu que certaines réformes avaient été mises en pratique, notamment la suppression des samedis matins, et puis la mise en place du soutien aux élèves en difficulté en remplacement, ce qui pourrait réjouir tout le monde dans un premier temps. Parce que ça paraît sympa d'avoir ces week-ends, même pour nous. Ça paraît sympa d'avoir 4 élèves en petit comité. On peut faire du travail de bonne qualité. Tout le monde pourrait sembler extrêmement content de ça. Le problème, c'est que ça sert à faire passer une très grosse pilule qui est petit à petit la suppression de plus en plus de moyens pour l'école.
C'est-à-dire que là, les toutes dernières réformes qui ont eu lieu, parce qu'il y en a eu d'autres avant, il y a eu la réforme des programmes aussi, je ne sais pas si on parlera de ça
bien
tout à l'heure.
Bien sûr, elle a été mise en place à partir de la rentrée.
Mais
aussi,
vous êtes en train de dire, donc la réforme du samedi matin, l'objectif, en tout cas votre analyse à vous en tant qu'enseignant, c'est clairement au bout du bout du bout d'arriver à des suppressions de postes, c'est ça ?
Tout se passe comme si l'objectif final était d'arriver à faire un maximum d'économies. Et dans les faits, c'est ce qui se passe. On le voit avec l'annonce de la suppression de 3 000 enseignants spécialisés. Non leur suppression en tant qu'enseignants, mais en tout cas en tant qu'enseignants spécialisés, puisqu'ils seraient sédentarisés dans les classes, on leur attribuerait une classe.
Là, vous parlez des enseignants donc du RAZ.
Oui.
Mais cette question d'ailleurs de la suppression de postes afin de faire des économies, c'est un peu ce qu'on a l'impression que nous a expliqué Luc Ferry. Parce que quand on l'entend, et si Jean-Jacques se débrouille bien, il va réussir à nous passer le son. Quand on l'entend, et je pense qu'il est très clair sur la question. Bonsoir Luc Ferry.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. La suppression du samedi est donc de fait la semaine de 4 jours. Est-ce d'après vous une bonne mesure ?
Ça dépend de quel point de vue on se place. Si on se place du point de vue des performances des élèves, c'est pas forcément une chose formidable. Si on se place d'un autre point de vue, qui est le point de vue budgétaire, qui peut paraître ridicule aux enseignants, mais qui n'est pas ridicule à mon avis en soi, parce que l'avenir des enfants, c'est aussi la dette publique qu'on laisse sur eux. Cette suppression à la fois d'heures et de postes, puisqu'en fait derrière la suppression d'heures, même au primaire, il y a des suppressions de postes, elle est évidemment défendable. Donc on peut avoir les deux points de vue. On peut dire voilà, ces gens de droite sont des gestionnaires au petit pied, qui vendent, qui bradent l'enseignement pour des raisons budgétaires misérables, ou on peut dire, ce que je pense personnellement, la question budgétaire est fondamentale, la question de la dette publique est fondamentale, et on ne peut pas exempter l'éducation nationale, étant donné le nombre de fonctionnaires qu'il y a dans cette maison, d'un effort, y compris sur le plan budgétaire.
En supprimant le samedi, on fait des économies ?
Bien sûr.
Comment ?
Ah, c'est drôle, là il faut vraiment être technicien pour le savoir. Ouais. En fait,
est-ce qu'on peut l'expliquer simplement ?
Oui, simplement pour nos auditeurs.
Oui, on peut l'exprimer, mais simplement, les suppressions d'heures sur le passage de 26 à 24, ouais. Normalement, vous diriez, c'est dans le primaire, ça change pas le nombre de postes, ouais. Puisque c'est dans le primaire.
Oui, voilà, et puis en plus, il y a les deux heures pour les élèves en difficulté.
Voilà, justement, les deux heures pour les élèves en difficulté, les deux heures de soutien, ça permet de supprimer ce qu'on appelle les RAZ, c'est-à-dire les réseaux d'aide, de soutien dans les départements, et ça fait économiser 8000 postes. Donc il faut quand même le savoir, c'est un point très important, c'est ça l'enjeu de cette réduction, outre le fait qu'évidemment, ça fait plaisir aux parents. Ça fait plaisir aux élèves et ça fait plaisir aux professeurs. Donc vous avez là, si vous voulez, un avantage politique, une réduction.
Alors excusez-nous, le son n'était pas de très bonne qualité. C'était une interview donc, de Luc Ferry sur Europe 1. Vous avez certainement quelque chose à dire sur cette interview.
Nous sommes personnel effectivement du RAZ. Et donc nous sommes trois sur quand même un secteur qui comprend 1500 élèves. Et donc deux postes sont menacés. Deux postes spécialisés sont menacés. Les maîtresses spécialisées sont menacées. Donc, à terme, effectivement, l'objectif, c'est de les remettre sur des classes ordinaires. Parce que, pour l'instant, elles travaillent avec des petits groupes d'élèves. Des petits groupes d'élèves qu'elles vont chercher, donc, dans les classes. Elles n'ont pas de classe à elles. Si on les remet dans les classes, effectivement, on va gagner des postes. Puisqu'elles vont prendre une classe en charge. Donc là, on parle d'économie, effectivement.
Alors, est-ce que vous pouvez nous redire ce que veut dire RAZ, déjà ?
Ah oui, alors RAZ, c'est le réseau d'aide spécialisé pour les enfants en difficulté. Donc on intervient sur tout un secteur. Nous sommes peu nombreux, puisqu'effectivement, nous, on a un secteur de 1500 élèves. Et nous sommes trois. Et nous pensons que...
C'est déjà pas suffisant.
Voilà, nous pensons déjà que ce n'est pas suffisant. Donc on intervient auprès des enfants en difficulté. En accord avec les enseignants. C'est-à-dire, c'est les enseignants qui viennent vers nous et qui nous disent, en début d'année, on fait le tour de toutes les classes et qui nous disent, je constate, je vois que j'ai des difficultés avec cet élève. On essaie de voir en premier ce qui a été mis en place dans la classe, parce que la première aide, elle se situe dans la classe, avec l'enseignant, puisque l'enseignant est formé aussi pour avoir une pédagogie différenciée en fonction du besoin et du niveau des élèves. Donc, quand les moyens...
Sur le groupe scolaire, il y a combien d'élèves par classe en moyenne ?
Je sais pas, je dirais 25, mais il faudrait mieux demander au directeur.
Il est là, le directeur, il confirme.
En maternelle, c'est 30.
260 élèves, 25 de moyenne.
Donc, 260 élèves et 25 de moyenne par classe. 30. D'accord.
Ah, Darkos, il ne saurait pas combien il y a de classes. Hein.
Ça, c'est pour l'école élémentaire. Pour l'école maternelle, c'est 30 par classe.
Ouais, 30 par classe sur les sur l'école.
En maternelle, ils sont 30 par classe.
Mmh. Oui.
Et donc, pour bien comprendre, le RASEN intervient, intervient que ce soit à la maternelle ou au primaire.
Oui, nous intervenons aussi bien à la maternelle qu'au primaire, sachant que nous avons des priorités. La priorité sur le cycle 2, c'est-à-dire grande section CP, C20. Puisqu'on n'arrive pas à répondre à tous les besoins.
Excusez-moi, c'est une priorité que vous vous êtes fixée ou qu'on vous a fixée?
C'est une priorité qu'on nous a fixée. Après, libre à nous, en fonction des besoins et en fonction de nos moyens, d'intervenir également sur le cycle 1 et sur le cycle 3.
Mais en fait, si je comprends bien, là, ce que vous dites, c'est que vous êtes déjà en difficulté pour mener à bien votre mission. Vous êtes déjà en sous-effectif.
Tout à fait.
Donc, en fait, avec la réforme, là, c'est tout le réseau qui va disparaître. Parce que si on supprime 2 postes sur les 3 et qu'à 3, vous n'arrivez déjà pas à tenir les choses, qu'est-ce qui va se passer?
En tant que psychologue, je crois que je vais avoir un grand moment de solitude quand même, puisque je risque de me retrouver seule si mes 2 collègues se retrouvent dans des classes ordinaires.
Et alors, pour bien comprendre, parce que la question que beaucoup se posent quand on ne connaît pas le RASED, c'est pourquoi les profs ne peuvent pas faire ce travail-là? Qu'est-ce qui fait la différence entre un prof et quelqu'un qui intervient pour le RASED? Oui, Karine.
Pardon, vas-y. En fait, on a eu une formation spécialisée et les enseignants peuvent éventuellement travailler avec certains élèves dans leur classe qui rencontrent des difficultés ponctuelles. Mais pour des enfants qui ont des difficultés plus complexes et plus lourdes à gérer, je crois qu'une spécialisation est nécessaire. De la même façon qu'en médecine, il y a un médecin généraliste et il y a des spécialistes.
Donc c'est pas que la question du nombre d'élèves par classe, c'est ça? Parce que l'histoire du... comment ça s'appelle, le temps d'aide personnalisé, c'est ça, ce qui est mis en place selon les écoles, c'est le matin ou des enfants qui reviennent une demi-heure,
un petit comité. En soi, c'est pas forcément une mauvaise idée et certains enseignants sont contents de la relation qu'ils peuvent avoir en petit groupe avec des enfants de leur classe. Seulement, ça peut aider des enfants qui ont besoin d'un coup de pouce, mais pas forcément des enfants pour lesquels les difficultés sont durables et plus complexes.
Bien profondes, oui.
Dans lesquelles un travail avec la famille est nécessaire.
C'est ce que vous faites, vous, au RASED, à l'heure actuelle.
Voilà,
c'est ça.
On a aussi un travail de communication avec la famille, avec les intervenants extérieurs, les structures de soins, et donc on fait des liens entre ces différentes personnes autour de l'enfant, et ça prend du temps, et je pense qu'un enseignant dans sa classe ne peut pas faire ça.
Et l'argument par rapport aux économies, parce que ça, c'est un argument qu'on entend beaucoup, il faut faire des économies dans l'éducation nationale, ça coûte trop cher. Est-ce que finalement, c'est une réelle économie à long terme? Parce que moi, j'imagine que des gamins qui sont pas aidés, justement, ben, du coup, en termes d'apprentissage, vont cumuler des difficultés. Et est-ce que finalement, ça coûte pas plus cher?
Moi, je pense que ça déplace le problème, parce que les orthophonistes vont être de plus en plus sollicités. Déjà, elles le sont beaucoup. Et ça déplace le problème vers le champ médical. La difficulté va être médicalisée et peut-être ça va être plus coûteux pour les parents aussi.
Oui, parce que du coup, ça ne se traite pas à l'école. Je veux dire que les problèmes seront toujours là, mais les parents vont aller dans le privé.
Ça va sortir du domaine de la compétence de l'éducation nationale.
Ou pas du tout, ça dépend aussi de quel milieu. C'est souvent des milieux très défavorisés, donc les familles ne seront vraiment pas aidées du tout. Hein. Plus il n'y aura plus personne autour d'eux.
Parce que là, si on fait le point à l'heure actuelle, auprès de quel... pas dire quel type d'élèves vous intervenez, mais c'est plutôt des élèves issus de milieux défavorisés.
Souvent, malheureusement, on travaille avec ces enfants-là.
C'est-à-dire que les difficultés s'initient aussi à la maison, c'est ça avec...
Bien sûr.
Expliquez-nous un peu, parce qu'on a vraiment de l'extérieur du mal à comprendre quelle est réellement la différence entre le travail que vous pourriez faire, vous, que vous faites, vous, à l'heure actuelle, et le travail que peut faire une enseignante, par exemple. Moi, j'ai toujours du mal à comprendre une enseignante dans sa classe avec juste un tout petit groupe d'élèves aussi. Voilà, où on sait que les enseignants peuvent rencontrer les parents aussi à la sortie des classes, peuvent aborder un certain nombre de questions. Il y a les directeurs d'école qui sont là aussi pour ça. Enfin.
Souvent, les difficultés, elles apparaissent à l'école. Hein, parfois, les familles réussissent à fonctionner avec l'enfant à la maison. Et lorsque l'enfant se retrouve en collectivité, avec des exigences scolaires et de socialisation, c'est là que vont apparaître les difficultés. Et c'est vrai que dans un premier temps, on essaye de le gérer dans la classe, puis on peut faire appel au RASED. Et on travaille ensemble avec les enseignants pour voir comment on peut aider l'enfant. On peut aider l'enfant par une prise en charge par les maîtresses spécialisées. Parfois, ça ne suffit pas. Hein, c'est une première étape. Parfois, ça ne suffit pas, on est obligé d'aller un petit peu plus loin. Et là, tout un travail se met en place en réseau. C'est-à-dire, on va travailler avec l'enseignant, on va travailler avec les enseignantes spécialisées, on va travailler avec les services extérieurs et on va travailler avec la psychologue scolaire. Et là, donc, c'est pour aider des parents qui n'ont pas toujours les moyens ou la connaissance, parce que tous ces réseaux-là, il faut les connaître, pour mettre en place un accompagnement approprié en fonction des besoins de l'enfant, des besoins particuliers de l'enfant, auxquels l'école ne peut pas toujours répondre. Mais ce qui est intéressant, c'est que nous, on est aussi un pont, en quelque sorte, entre cette difficulté qui apparaît, qui est difficile à gérer par la famille et peut-être à terme par l'école, et ce qu'on peut mettre en place pour aider l'enfant. Ça peut rester au sein de l'école, et c'est très bien comme ça, si l'enfant s'en sort, il réintègre sa classe, on oublie le rasette, c'est terminé. Mais parfois, il faut aller plus loin. Et là, souvent, il y a aussi tout un relationnel avec les parents qui est important. Déjà, pour prendre connaissance de la difficulté, savoir que son enfant est en difficulté, ce n'est pas toujours facile à accepter. Donc, il y a une sorte de maturation qui se fait par rapport à ça. Et ensuite, ensemble, voir vers quel professionnel, si nécessaire, on va envoyer les enfants, on va envoyer la famille. On est là aussi pour guider les familles. Les enseignants le font dans leur classe, au quotidien, par rapport au travail scolaire exigé. Les enseignants spécialisés le font quand elles reçoivent les enfants, elles sont en relation avec les familles. Et au-delà, on peut aussi aller plus loin, les aider à aller vers l'extérieur, les accompagner, savoir vers qui aller, comment faire, comment s'y prendre. Et après, effectivement, il y a une relation plus à long terme qui va s'établir pour aider l'enfant. Ce qu'on veut, c'est aider l'enfant, savoir comment l'aider, plus, et parfois plus au-delà de la classe.
On commence à y voir un peu plus clair, je sais pas, Séverine. On vous propose une.
Vérifie auprès de moi, c'est comme ça ici, c'est clair.
Et les talons,
c'est
toujours le
vérifie. Séverine a compris, tout va bien.
On vous propose de faire une petite pause et on reprendra ensuite sur le sujet et sur l'école un peu plus en général.
À l'école maternelle, on entend la sonnerie. Ah, que la vie est belle, à 4h30. 4h30 pile, boulevard Bertolucci. Au milieu de la file, avec tes pilotis. C'est bien toi la plus belle, et lorsque tu souris. Il me pousse des ailes, boulevard Bertolucci.
Enfin, pico, 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 lulo, enfin.
Quatre et demi pile, boulevard Bertolucci. Les enfants sont agiles, les mamans sont jolies. C'est l'heure des friandises. Les goûters sont sortis, on pardonne les bêtises à 4h30.
Macho!
4h30 pile, boulevard Bertolucci. Tout paraît si facile, c'est un vrai paradis. Si le monde est en crise, je veux rester ici. Adieu les idées grises, boulevard Bertolucci.
Piccolo, enfin.
parler un petit peu du raset des enseignants, moi j'aimerais bien quand même avoir l'avis des parents d'élèves, parce que du coup c'est vos enfants qui risquent de se retrouver soit avec des difficultés, soit en tout cas avec pas vraiment l'éducation auquel ils pouvaient prétendre il y a quelques mois. Comment vous réagissez vous par rapport à ça?
Je réagis avec beaucoup d'étonnement parce que...
Bon, c'est déjà ça.
Oui, ouais, parce qu'il y a quand même des choses qui me paraissent un peu étranges quand même, parce que on va juste revenir quelques mois en arrière et on a tous appris au mois de mai, je crois, au mois de juin, que le samedi serait supprimé. C'est... Ou en juillet, oui. En fait, c'est quand même assez étonnant parce que c'est quand même une décision qui est prise et qui engage quand même quelques centaines de milliers, si ce n'est pas quelques millions de personnes en France, et sans qu'on leur demande leur avis, quoi. J'ai pu comprendre que les politiques s'étaient basées sur des sondages. Alors, on sait ce que les sondages ont valeur, hein. Mais voilà, donc on nous dit, voilà, le samedi sera supprimé, et donc les 2 heures du samedi matin, ça sera uniquement pour les élèves en difficulté, et... Alors au début, on ne savait pas quand c'était, et donc c'était un peu étrange.
Je te coupe, mais en quoi la suppression du samedi, c'est problématique?
Bah, c'est problématique.
Finalement, on peut dormir, on peut faire autre chose.
On peut partir en week-end.
Oui, c'est sûr, mais on en profite. Mais bon, tout le monde n'a pas une profession qui lui permet aussi de ne qui travaille pas le week-end. Hein,
ah d'accord, c'est parce que toi, de toute façon, tu travailles le samedi.
Oui, entre autres, mais le problème n'est pas mon problème. Le problème, c'est sur une globalité d'enfants. On ne va pas prendre un cas en particulier. Ce qu'il faut, c'est regarder la majorité des gens. Enfin, disons que je croyais que l'école républicaine, c'était ça. Et... toujours est-il que donc on a supprimé à mes enfants, je crois que c'est 60...
Une année entière sur l'ensemble de la scolarité.
Voilà. Une année entière sur l'ensemble de la scolarité.
Ouais, je crois que ça représente 72 heures par an. Alors que moi j'avais pu comprendre que au contraire les enfants il fallait plutôt réduire les journées de travail, enfin le travail à l'intérieur d'une journée, et au contraire étaler les journées sur l'année. Donc, bon, j'étais un peu étonné de ça. Et la deuxième chose, c'est qu'on nous dit que c'est pour... la globalité, c'est pour faire des économies. Alors...
Ça revient.
Oui,
c'est important quand même, les économies, tout ça, la dette. Sinon, on ne peut pas s'acheter des Charles Leclerc, quand même.
Oui, non, mais en ce qui concerne la dette, moi, je suis tout à fait d'accord de faire en sorte que la dette soit réduite. Mais donc, on ne trouve pas d'argent pour éduquer mes enfants. Et par contre, on trouve énormément d'argent pour une crise financière. Enfin, les paroles de Luc Ferry, c'était quand même avant que la crise financière arrive. Et moi, je veux bien qu'on me dise qu'il faut faire des économies, mais il y a des économies où on a envie d'en faire et d'autres où on n'a pas envie d'en faire. Donc c'est pour ça que je suis un peu quand même étonné.
Ouais, mais autant les ministres, ils ont placé leurs économies dans les banques, mais pas leurs enfants dans les écoles. Donc en même temps, il faut les comprendre.
Pas les nôtres, en tout cas.
Bah, j'aimerais que les journalistes fassent un jour un travail intéressant pour savoir où sont allés les enfants des ministres. Et je pense qu'ils devaient être dans des écoles où il devait y avoir peu d'élèves. Et
ça s'approche d'un édito de Boris, ça.
Ah, d'accord. Alors Boris, bon courage.
Est-ce qu'on pourrait avoir votre avis sur cette question du samedi matin, savoir finalement... Est-ce que c'est important ou pas d'étaler sur la question du rythme scolaire? On parlait à un moment donné de travailler le mercredi ou pas, travailler sur 4 semaines de 4 jours. Enfin,
il fut un temps où il y avait de la recherche en éducation et sur les rythmes scolaires, et où on s'en inspirait pour faire les programmes et pour faire les réformes de l'éducation nationale. Et il s'avérait que plus la journée scolaire était longue, et moins elle était efficace pour les apprentissages. Et là, ce qui se passe depuis la rentrée, c'est qu'on a des journées de 6 heures pour les enfants qui ne sont pas en difficulté et de 6h45 pour les enfants qui sont en difficulté et qui auraient besoin, plus encore que les autres, qu'on respecte leur rythme. À côté de ça, on a du temps d'apprentissage pour l'ensemble des enfants, qui est quand même énorme. Voilà, j'ai l'impression qu'on a tout fait en dépit du bon sens. En tout cas, en dépit de la recherche.
Et vous le ressentez, ça, depuis que c'est mis en place dans les semaines quotidiennes?
Est-ce que du coup, c'est plus difficile de faire le programme?
C'est difficile de l'évaluer parce qu'on a, on n'a pas forcément pris les mêmes enfants selon les périodes, parce que ce n'était pas 2 heures pour l'année, c'était par période, le contrat. Et donc, c'est difficile à voir sur du très long terme. Après, ce qu'on peut voir tous les matins quand même, c'est qu'on a 45 minutes pour travailler. Ils mettent quand même une demi-heure pour se réveiller en arrivant. Donc, on ne peut pas dire que ce soit super, et, super productif quand même comme dispositif.
Mais du coup, alors, le système de l'aide le matin, qui est encore plus tôt, je crois, où les enfants arrivent...
Oui. 8h15.
Mais finalement, c'est encore, ça risque pas d'être productif. S'ils ont déjà du mal à se réveiller en temps normal. Je suis désolée, ils me font passer des petits messages, du coup, ça me déconcentre. Ouais. C'est n'importe quoi, les gars. Bon. Est-ce que du coup, s'ils ont déjà du mal à se réveiller à l'heure normale, ça devient pas encore plus difficile si on les fait venir une demi-heure avant?
Il faut que je réponde à cette question.
Ça serait bien, quand même, je me sentirais pas toute seule.
Bah, disons que moi, en tant que parent d'élève, on s'est quand même posé des questions, au sens où, quand il y avait une fratrie, comment ça se passait? Quand il y a un enfant a besoin de soutien et l'autre n'a pas besoin de soutien. Alors, si un enfant a besoin de soutien, donc le parent part de chez lui, il amène donc les deux enfants à l'école, il en laisse un au soutien et l'autre, il le laisse où? Alors, il ne le laisse pas dehors. Ici, on le laisse à l'accueil. Oui, mais l'accueil est payant. Donc, c'est sûr que il paraît qu'on devait faire un effort sur le pouvoir d'achat. Là, il n'y a pas d'effort de fait, quoi. On est encore en train de payer et de payer et de payer pour l'éducation de nos enfants. Donc, il y a des moments où on se pose les questions et on a un peu du mal à comprendre quelles sont les décisions qui sont prises pour soi-disant le bien-être de nos enfants.
De là à dire qu'on a un gouvernement de droite, il n'y a pas loin, quoi.
Non mais là, peu importe, il a été élu démocratiquement, je ne suis pas là pour en juger, je suis juste là pour essayer de me poser des questions sur le bien fondé, ou du moins, quelles sont les conséquences sur l'éducation de mes enfants au quotidien. Et au jour d'aujourd'hui, je n'y comprends pas, quoi. J'y perds mon latin.
On vous propose, on parlait tout à l'heure en début de l'émission, qu'il y avait quand même des réactions, en tout cas des enseignants, des parents d'élèves et tout ça, des manifs, des occupations d'école, enfin des choses qui se passent un peu partout pour lutter contre ça. On vous propose d'écouter un son qui a été pris par des parents d'élèves de l'école, je crois que c'est Magda, Lise et Sabine, pendant les manifestations qui ont eu lieu, je ne me rappelle plus quel jour c'était exactement, mais elles nous le préciseront peut-être tout à l'heure. Voilà, on écoute ça, on se retrouve après.
Tu peux voter, pétitionner, débattre à la télé ou gamberger sans te bouger, mais...
C'est dans la rue que ça se passe.
Ne nous cassez pas l'école. Ne nous cassez pas l'école. Ne nous cassez pas l'école.
Réforme d'Arcos, j'ai un de mes enfants qui est en difficulté scolaire. Donc je suis obligée de l'emmener à 8h20 le lundi matin. Mon autre enfant qui a 7 ans n'est pas en difficulté scolaire. Donc je n'ai qu'un choix, c'est de la mettre à l'accueil et de payer. Et je n'ai pas les moyens de payer. Donc je m'organise avec mes amis. Donc on est en train de s'organiser entre amis là. Mais ça suffit les amis. Voilà, il y a des limites. Et c'est comme ça, j'en ai multiplié par 20, 30, 40. Je suis citoyenne, j'ai payé des impôts toute ma vie. J'ai 42 ans, j'en ai ras-le-bol. D'accord ?
J'en ai ras-le-bol.
Et pourquoi tu es là aujourd'hui, toi?
Parce qu'ils vont supprimer les enfants de 2 ans. Ils vont mettre un jardin public.
Ouais.
Et qu'on va payer.
Et toi, quel âge as-tu?
9 ans et demi.
Est-ce que tu sais pourquoi tu es venue ici?
Pour aider mon papa à manifester.
Ah, est-ce que tu sais pourquoi ton papa manifeste?
Non.
Non? Il ne te l'a pas dit. Alors on va aller l'interroger, va lui poser la question.
Papa, pourquoi tu manifestes?
Pourquoi je manifeste?
parce que j'en ai marre de la confusion qu'il y a entre réforme et destruction massive.
Est-ce que vous pouvez me dire en deux mots pourquoi vous êtes là ?
Pourquoi je suis là ? Pour d'abord une raison générale, c'est qu'on assiste aujourd'hui à une remise en cause de l'ensemble des services publics en France, et qu'aujourd'hui c'est un service public fondamental pour une société qui est l'école, parce que la responsabilité de l'école, c'est de former des citoyens. Et les attaques successives à travers les suppressions de postes, maintenant la suppression des RASED, ce qui signifie qu'on va laisser des enfants en grande difficulté, la suppression des structures qui permettent de former les maîtres, pose des problèmes de plus en plus graves. Et je crois que si aujourd'hui nous ne réagissons pas, eh bien on se promet une société dans quelques années dans laquelle la citoyenneté aura beaucoup souffert. Et c'est vrai qu'un citoyen, ça réfléchit. Ça peut être gênant pour un gouvernement qui n'aime pas les vrais citoyens. Voilà la raison.
Merci.
Ça se passe, c'est ce qu'on a entendu avec d'ailleurs la musique de la compagnie Jolie Môme. Donc est-ce que vous, on sait que vous avez aussi participé à des luttes, est-ce qu'aujourd'hui la solution c'est justement d'essayer de réfléchir à des formes de lutte, à des formes de résistance, ou est-ce que c'est de s'adapter, d'essayer de faire avec les réformes? Je sens que mes questions font un bide ce soir. Je vais le reposer.
Cette question concerne tout le monde, y compris les parents d'élèves.
Comment on peut faire quand justement on est face à des réformes qui ne correspondent pas à ce qu'on repère en tant que professionnel, des besoins des enfants et des besoins qu'on a pour exercer son métier? Comment on peut réagir? Et comment vous essayez de réagir à ça?
Il semble actuellement que les professionnels de l'éducation nationale, vous le voyez tous les jours, réagissent effectivement. Donc il y a plein de choses qui ont été mises en place. Alors savoir ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce qui est entendu, ce qui n'est pas entendu, ça c'est plus compliqué. Maintenant il y a eu plein d'initiatives. Hein. La première initiative c'est de faire la grève. Bon, c'est quelque chose qui est très traditionnel et qui nous porte préjudice puisqu'on perd notre salaire et qui ne porte pas toujours ses fruits. Donc il y a eu d'autres actions qui sont peut-être plus médiatisées. Peut-être que de faire la grève dans son coin, notamment avec les manifestations, descendre dans la rue, ce qui est quelque chose de très traditionnel, mais qui a le mérite de faire du bruit et d'essayer de se faire entendre par toute la population. Et puis ensuite, il y a eu d'autres initiatives, notamment avec les nuits des écoles, entre autres. Donc ça continue, puisqu'il semble quand même qu'il y ait eu quelques reculs avec, par rapport à la maternelle, notamment. On voulait donc
préciser.
Oui, enfin bon, l'objectif était de supprimer la toute petite section, c'est-à-dire la scolarisation des enfants entre 2 et 3 ans, et de remplacer ces classes de toute petite section par des jardins d'accueil. Mais ce n'est pas la même chose, puisque...
Là, on va vous faire écouter juste, une réaction de votre ministre.
Il y a deux mois, Xavier Darcos s'était entendu par la commission des finances du Sénat. Tout haut, le ministre de l'Éducation s'étonne alors du rôle des enseignants en première année de maternelle.
Est-ce qu'il est vraiment logique, alors que nous sommes si soucieux de la bonne utilisation des crédits délégués par l'État, que nous fassions passer des concours Bac plus 5 à des personnes dont la fonction va être essentiellement de faire des siestes à des enfants ou de leur changer des couches? Je me pose la question.
Je vous ai coupé un plein discours sur la question de la maternelle, mais c'était peut-être important de réagir aussi à ce son-là pour continuer.
En effet, Monsieur Darcos a suggéré ou dit tout à fait franchement que les enseignants de petite section passaient beaucoup de temps à la sieste ou à changer les couches. C'est un petit peu dommage que Monsieur Darcos ne vienne pas voir ce qui se passe dans les classes de petite section. Effectivement, les enfants de 2 ou 3 ans ont besoin d'un repos l'après-midi. Mais ce qui se passe le matin en petite section est vraiment très intéressant, notamment pour la socialisation de l'enfant, mais aussi pour des débuts d'apprentissage, même en petite section. Et c'est fait par des enseignants. L'objectif des jardins d'éveil, ce n'est pas du tout la même chose. Les jardins d'éveil, ce ne sera plus mené par des enseignants. Donc, il y a plus un objectif de garderie et non de pédagogie, éducation, socialisation. Donc, c'est un objectif plus de garderie dans le jardin d'éveil que à la maternelle petite section où on apprend. On apprend plein de choses. On se socialise, bien sûr, mais on commence à avoir des petits apprentissages fondamentaux. Des approches qui vont se faire progressivement tout au long de la maternelle, mais qui débutent dès l'âge du tout petit de 2 ans. Le jardin d'éveil, c'est plus une consonance de garderie. Et pas du tout avec les mêmes professionnels, pas avec la même formation. Ce ne sont pas des enseignants. Bon, il semblerait, si on est bien informé, qu'il y a un recul par rapport à ça, c'est-à-dire que l'objectif de créer des jardins d'éveil soit abandonné. Il y avait aussi un effet pervers là-dedans, puisque je crois qu'on prévoyait d'installer les jardins d'éveil dans les maternelles.
Donc, utiliser les mêmes locaux, en fait, c'est ça,
voilà,
c'est faire une transformation
il me semble,
d'objectif.
Voilà, c'est-à-dire prendre les classes de petite section et les aménager en jardins d'éveil avec un autre type de personnel. Donc, quel peut être à moyen terme l'effet pervers de ça? C'est que ce jardin d'éveil, il s'étend à la moyenne section par la suite, pour les enfants qui ont 4-5 ans. Et qu'on conserve la grande section, qu'on ne considère plus, ou que tout du moins le gouvernement ne considère pas comme de la garderie, puisque là on fait des prérequis, des apprentissages de prérequis pour le CP, et à ce moment-là, on mettrait la grande section avec plutôt le primaire, avec les classes, rejoindraient les classes primaires. Donc c'est ça aussi un petit peu le danger. C'est ça qui, je pense, inquiétait vraiment les enseignants, c'est se dire, OK, les 2-3 ans sont tout petits, est-ce qu'une classe de 28 enfants de 2-3 ans, est-ce que c'est vraiment adapté pour des enfants de 2-3 ans? On peut aussi se poser cette question-là. À voir, il faudrait des aménagements pour ces enfants qui sont très jeunes et qui ont besoin d'une relation beaucoup plus individualisée. Mais au-delà de ça, c'est se demander, est-ce que ça ne sera pas bientôt pareil pour la moyenne section? Suppression avec une continuité du jardin d'éveil. Et seulement, on commence l'école avec la grande section.
Mais dans ces cas-là, il faut se poser la question du service public de la petite enfance dans sa globalité, quoi. C'est pas juste... Là, c'est juste pour supprimer des premières classes. Le premier cycle commençant à 5 ans, forcément, ils vont le garder, mais le reste...
Oui, et puis récupérer des postes. C'est toujours un objectif d'économie parce que le personnel qui est employé dans les jardins d'éveil n'est pas payé et moins payé que des enseignants de petite section et de moyenne section qui iraient à ce moment-là en école primaire ordinaire.
Alors, moi, j'ai quand même l'impression que c'est qu'on revient sur ça depuis le début, sur cette question d'économie, que ça soit M. Ferry ou Darkos qui nous explique qu'il faut faire des économies. Est-ce que finalement, l'école, qu'elle soit maternelle ou primaire, elle doit être rentable? Est-ce que c'est un système qui doit être rentable? Est-ce que ça doit être un système qui... On peut se poser la question sur d'autres champs, mais est-ce qu'il faut faire des économies avec l'école?
L'école est-elle une marchandise?
Ouais, enfin moi, en tant que parent d'élève, je m'insurge un peu contre ça, parce que c'est quand même l'avenir de mes enfants, quoi, enfin de nos enfants. C'est pas, on peut pas dire que l'éducation, c'est pas important. On peut peut-être, à la rigueur, si on parle de politique générale, on peut se demander si est-ce qu'il n'y a pas d'autres postes budgétaires en France qui peuvent être diminués à la place de l'éducation. Je ne vais pas par là le fait qu'il ne faut pas améliorer peut-être un système qui pourrait avoir... des choses qui marchent moins bien, mais est-ce que à la rigueur, les choses qui marchent bien, pourquoi on les garde pas? On parle des jardins d'enfants actuellement. Ces jardins d'enfants, il parlait peut-être des 2-3 ans, mais à l'école, les petites sections à l'école de la Martelle, en fait, ont tous 3 ans. Il y a très peu d'enfants, ou quasiment peu. Et pour en avoir discuté avec d'autres parents d'élèves, même dans d'autres écoles ailleurs, beaucoup d'enfants avant 3 ans ne sont pas pris en charge. Donc voilà. Donc après, ils vont mettre des jardins d'enfants. Qui va payer ces jardins d'enfants? Enfin, je veux dire, ça va être payé par qui encore? Est-ce que ça va être encore de notre poche? Ou alors est-ce que ça va être très bien? Peut-être que les mamans, elles vont rester à la maison. Formidable, puisqu'il n'y aura plus de professionnels. Donc c'est un peu étonnant, quoi.
À la question « L'école est-elle une marchandise ?», moi, je pense que potentiellement, elle peut l'être, et qu'il y a un véritable marché. Et que c'est peut-être pour ça aussi que le démantèlement peut conduire à ça, à l'ouverture d'un marché de l'éducation. Et on voit déjà toutes les structures d'aide aux devoirs qui s'ouvrent, ne serait-ce qu'à Montpellier, en centre-ville. Donc je crois qu'il faut quand même être vigilant par rapport à ça, c'est que ça pourrait le devenir.
Donc ça serait encore payant. Encore payant par les parents, quoi. Donc, formidable, quoi.
Lui, il a perdu beaucoup de sous aux actions, Lina.
Ah oui, non, mais je m'étonne que les citoyens, d'une façon générale, parce que ça touche quand même plusieurs millions d'enfants, quoi. Et il va falloir encore payer pour... C'est un peu étonnant, quoi.
Mais est-ce que c'est... parce que les citoyens, de façon générale, est-ce que les gens, ils réagissent pas sur ça ? Vous ressentez qu'au niveau des parents d'élèves, au niveau de... même du cercle, il n'y a pas d'inquiétude par rapport à l'école, par rapport au devenir, que c'est vécu avec détachement.
Je crois qu'ils n'ont pas assez conscience.
Dans le micro.
Je crois qu'il y a un manque de conscience. Nous, on est à l'intérieur, on réagit, mais l'extérieur, je ne pense pas. En tout cas, ce que je voulais dire aussi, c'est que moi, je tourne dans différentes écoles et je ne vois pas des enseignants heureux à l'heure actuelle. Je vois des enseignants qui ne s'engagent plus, qui ne travaillent plus de la même manière... Je sens vraiment une tristesse chez les enseignants. Et donc, ça se répercutera fatalement sur les enfants. J'entends des jeunes qui veulent démissionner, qui veulent faire autre chose. C'est vraiment tout nouveau, tout ça. Et il y a vraiment de la difficulté, de la souffrance et pas du bonheur à être enseignant aujourd'hui.
Alors, comment on peut... Parce que ça, c'est un constat qui est pessimiste. Et puis, nous, à Wakadi, on est optimiste, n'est-ce pas, Boris? On est optimiste. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait réfléchir? Par exemple, on sait qu'il y a des gens qui se sont mouillés dans des moyens de lutte, qui ont pris des positions très difficiles. Je sais que Karine, elle s'est posée cette question des moyens d'action, par exemple, et que il y a des moyens qui ont été expérimentés. Alors, tu m'évoquais en dehors la question de la désobéissance civile. Est-ce que c'est un des moyens qu'on peut utiliser dans la lutte aujourd'hui au niveau de l'éducation ?
En tout cas, c'est un moyen d'action qui est en ce moment beaucoup utilisé par des enseignants qui écrivent des lettres de désobéissance civile. Donc est-ce que ça va être plus porteur que les manifestations ou les mouvements de grève ? Je ne sais pas, mais je pense qu'il y a de la part des enseignants quand même un engagement en tant que personne, en tant que citoyen, pour essayer de défendre le service public et l'éducation nationale.
Mais cette lettre, elle pose problème parce que on sent que...
Là, est-ce que vous pouvez préciser à quoi vous faites référence là ?
Alors, c'est une lettre qui s'inspire de la lettre de Bastien Cazal.
Qui est directeur d'école à Saint-Jean-de-Védas, c'est ça ? Oui. Et enseignant en maternelle, lui.
Oui. Et de... comment s'appelle l'autre ?
Alain Refalo, non ?
Oui. Monsieur Refalo, et qui s'engageait solennellement à ne pas appliquer les réformes. Donc il y avait toute une liste de réformes qu'on a évoquées tout à l'heure. Il y a d'autres points qu'on n'a pas abordés. Et il s'engageait notamment à ne pas accomplir son service de soutien aux élèves en difficulté, parce qu'il cautionne la suppression des RAZ, à ne pas se déclarer comme... ayant l'intention de faire grève, comme ça nous est demandé depuis cette année, pour ne pas permettre la mise en place de l'accueil minimum, le service d'accueil minimum par les mairies, ce qui court-circuite la grève. Il s'engageait aussi à ne pas se porter volontaire pour la remise à niveau des élèves de CM1 et CM2 pendant les vacances scolaires. Et il y a deux autres points, je pense, concernant les...
Mais pourquoi ça pose problème, cette lettre ?
Ce qui pose problème, c'est... Bon, ce qui est intéressant, c'est la médiatisation, parce que ça permet... en fait, c'est une lettre qui a été adressée aux inspections. Celle de Bastien Cazal était adressée directement au président de la République. L'intérêt, c'est que ça permet de médiatiser et, pour le coup, de faire boule de neige et d'informer les gens. Ce qui est embêtant, par contre, c'est que dans la mise en pratique, à partir du moment où on met ces engagements en pratique, il y a une répercussion sur le service à l'école, notamment si on s'engage à ne pas effectuer son service de soutien. On pénalise. Mais par contre, à très court terme, on pénalise les élèves qui en auraient bénéficié. Et le problème, c'est qu'on risque de se heurter à une très grande hostilité des parents, parce que c'est difficile de demander à un parent d'élève de sacrifier son enfant, même si ça concerne une courte période, même si ça concerne des problèmes ponctuels qui auraient pu et qui pouvaient se résoudre auparavant au sein de la classe par la pédagogie différenciée. Et moi, je suis un peu sceptique à ce niveau-là. Je ne suis pas certaine d'obtenir l'adhésion des parents d'élèves.
Et les parents d'élèves là, qui sont là, qu'est-ce qu'ils en pensent
De ces moyens de lutte ?
Oui, de ces moyens de lutte et de cette façon, parce que dans la lettre de Bastien Casal, il y a aussi des choses comme par exemple sur la question des programmes, il rentre dans le détail, enfin, où il dit que lui, il continuera à appliquer les anciens programmes, qu'il ne va pas rentrer dans la réforme. Enfin, il y a d'autres choses. Je pense qu'en tant que parent d'élève, on peut avoir aussi un avis sur cette question-là.
En ce qui concerne les moyens de lutte par les professeurs, ça, c'est leur. Comment dire, les revendications qu'ils portent, ils doivent les porter. Nous, ce qu'on doit regarder dans ce type de revendications, c'est quelles peuvent être les conséquences, en fait, positives ou au contraire complètement négatives sur l'éducation qui est portée à nos enfants. C'est ça qui est important aujourd'hui. C'est-à-dire, on n'est pas là pour soutenir les instituteurs de façon bête et disciplinée. Par contre, on est là pour les soutenir dans tout ce qui permettra une meilleure éducation pour nos enfants. Et au jour d'aujourd'hui, en ce qui concerne les revendications qu'ils portent, on trouve quand même qu'elles sont très importantes. Alors, de là à nous, à trouver des moyens peut-être complémentaires à leur action ou complètement différentes. Ces moyens sont débattus actuellement en réunion. On en a évoqué quelques-unes pendant la nuit des écoles où on aurait aimé, puisqu'en fait on a pu comprendre que dans les nouveaux programmes qui étaient appliqués, il fallait revenir à l'apprentissage pur et dur et qu'il fallait complètement enlever tout ce qui était découverte, expérimentation. Donc nous, on s'était demandé si on allait peut-être pas aller faire une classe, une école délocalisée au musée Fabre ou dans un endroit un peu culturel, quoi, un peu tout ce qui pourrait à la rigueur ne pas servir à l'éducation pure et dure de nos enfants. Parce qu'on estime, enfin à l'instruction, pardon, parce que on estime que ça fait aussi partie de la bonne instruction de nos enfants.
Mais si on est épanoui et heureux, vos enfants seront heureux. Ça, vous.
Est-ce que t'as le micro, dans le micro.
Oui, si on est épanoui et qu'on s'épanouit dans notre profession, vos enfants seront heureux. Il y aura fatalement des répercussions. C'est basique, hein. Voilà. Donc ça, il faut que les parents nous soutiennent pour ça aussi.
Sur la nuit des écoles, pour rester à les moyens de lutte, la nuit des écoles, c'était une occupation d'école par les parents d'élèves, par les enseignants, par les deux.
À la nuit des écoles, il y avait tout le monde. Il y avait les instituteurs et les parents d'élèves.
Et les enfants.
Qui était là. Donc, en ce qui nous concerne, on a fait des gâteaux sablés qu'on a pu revendre par la suite. Donc, c'était une activité.
Ah oui, on règle la question financière en même temps.
On règle quelque peu la question financière, mais on a aussi.
C'est quoi son métier voilà.
Et l'autre partie, ça a été aussi de pouvoir engager le débat. Et justement, on s'est rendu compte qu'il y avait aussi beaucoup de gens qui n'étaient pas du tout au courant des réformes qu'il y avait actuellement. Et surtout, de quelles étaient les conséquences directes au sein des écoles. Donc ça a été très très important.
Ben justement, nous, ce qu'on a essayé de faire ce soir, c'est aussi d'essayer de rendre un peu plus clair ce débat, parce que c'est vrai qu'il est complexe, parce que le débat autour de l'éducation, autour de l'avenir de l'école, c'est quelque chose qui revient de manière très fréquente dans l'actualité politique, mais qui renvoie à chaque fois aussi à ce qu'on veut pour les enfants, au choix qu'on fait. Est-ce qu'on fait des choix qui privilégient l'économie ? Est-ce qu'on fait des choix qui privilégient les besoins des enfants et l'éducation ? Est-ce qu'il ne faut pas arriver à quelque chose qui ait du sens à la fois pour les parents, pour les instituteurs et pour les enfants, plutôt que de partir sur des choses qui ont du sens en fait que dans des logiques économiques ?
Cette musique, Sabrine, c'est la musique que t'entends, c'est la musique du générique de fin.
C'est la musique du générique de fin,
voilà,
déjà.
Ça veut dire qu'il va falloir qu'on arrête l'émission là. Donc on a une tradition, on a deux traditions en fait, quand on fait des émissions de radio, c'est qu'à la fois, quand on entend cette musique, on commence à mettre un petit chapeau parce qu'on va sortir de ce plateau en dansant, en fait, tous, oui, vous aussi. Vous aussi. Et la deuxième tradition, c'est de dire en fait qu'on n'a pas vraiment fini de traiter le sujet, donc on continuera à le traiter dans une autre émission. Quoi. On souhaitait remercier tous les parents d'élèves du groupe scolaire de la Martel qui nous ont accueillis ici, le conseil local FCPE évidemment, les personnels de l'école Spinoza dans leur ensemble. On se retrouve sur Radio Clapaz 93.5. Vous pourrez également réécouter cette émission sur le site de Wakadi. Wakadi, ça s'écrit O-A-Q-A-D-I. Donc le site, c'est wakadi.free.fr. Voilà, on vous dit à bientôt. Un dernier mot ?
Non ? Je pense que ça va aller, je vais le laisser à Boris le dernier mot.
Tout est question de redistribution de richesse, quoi.
Un dernier mot, non ?
Oui, moi, en tant que parent d'élève, je souhaiterais quand même vous remercier, l'association Wakadi, d'être venue pour au moins essayer que tous les parents puissent comprendre quelle était la problématique entamée ce soir.
C'était avec plaisir, mais la prochaine fois, on aurait aimé avoir des sablés.
Si t'as des sous.
Et merci au public aussi.